Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous.
Et avec votre esprit.
Nous avons la joie d'accueillir des scouts de Laval. Bienvenue à vous. Et nous sommes en week-end de formation, donc dans la famille spirituelle, les messagers, petites sœurs et petits frères. Voilà, une formation au discernement sur la volonté de Dieu dans notre quotidien. Nous remercions donc Sœur Geneviève qui nous a formés, voilà, à cette approche. Il nous faut réentendre ce que nous avons chanté. Inépuisable est la tendresse qui soutient l'univers. Jésus-Christ nous le révèle, bonheur de l'homme et gloire de Dieu. C'est précisément aussi ce que nous entendrons dans les lectures, dans la parole de Dieu. Il faut être convaincu de cet amour de Dieu pour chacun, et c'est dans cet amour de Dieu que nous nous reconnaissons aimés, et dans cet amour que nous pouvons aussi demander l'aide, le secours, la miséricorde du Seigneur. Bien, entrons dans cette célébration avec cette conviction d'un amour qui relève, qui pardonne.
Lecture du livre du prophète Jérémie. Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. Tu diras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur, parole du Seigneur.
Nous rendons grâce.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères, et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées. Le don des langues cessera. La connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle. Nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement, de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit « Sûrement, vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie, et qu'une grande famille se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu.
Nous, Seigneur.
Frères et sœurs, je n'oublie pas qu'aujourd'hui, c'est la Sainte-Martine, et il y en a dans l'Assemblée. Bonne fête. C'est important de se savoir reconnu à partir de son prénom, car ça nous rappelle aussi notre baptême. Et c'est ce que nous entendons aussi dans cet appel aussi de Jérémie. Mais d'abord, il n'est pas aisé, me semble-t-il, de saisir dans une perspective d'ensemble les lectures dont le lien n'est pas forcément évident. Nous y découvrons l'aspect missionnaire de la vocation de Jérémie et celle de Jésus sur lui-même. Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, nous entraîne dans le magnifique éloge de la charité qui définit supérieure au charisme et même à la foi et à l'espérance. Cependant, en méditant ces lectures, il m'est revenu une citation inscrite sur le mur d'un amphi d'une université catholique, parmi les citations d'hommes qui ont marqué la pensée et l'histoire, j'ai retenu une citation de Charles Péguy. Il est écrit ceci. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée, c'est d'avoir une pensée toute faite. Cette citation s'adresse au monde des étudiants aussi bien que celui des enseignants et à nous aussi, bien sûr, aujourd'hui. La lecture de ce dimanche montre combien il est difficile d'annoncer que le salut vient de Dieu et non des hommes, et passe par les hommes. Ainsi le choix de la vocation de Jérémie. Jérémie n'a pas le panache, je dirais, d'Isaïe ou d'Ézéchiel après lui, ces grands prophètes de la capitale de Jérusalem qui ont leur vocation dans le temple. Vous vous souvenez de Jérémie, ils ont les visions de la gloire de Dieu. Isaïe voit le trône de Dieu et puis Dieu qui se pose la question, qui enverrai-je comme prophète? Et la magnifique réponse d'Isaïe, me voici, envoie-moi. Enfin, je simplifie. Jérémie, lui, il n'est pas de la capitale. Il est de la banlieue, d'Anatote, à 10 kilomètres à peu près de Jérusalem. Et sa vocation, il l'a pas dans le temple. Il entend simplement cette parole du Seigneur. La parole, dit-il, fut adressée à Jérémie. Donc il entend une parole, certainement intérieure. Que dit cette parole ? Je t'ai aimé d'un amour éternel. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Cette parole, on peut la réentendre suite à notre baptême qui fait de nous des prêtres, des prophètes et des rois. Et cet amour éternel de Dieu sur Jérémie se traduit aussi par une mission, une vocation très exigeante. C'est de retraduire auprès du peuple ce que le Seigneur lui inspirera. Mais, à la fin, le Seigneur dit, la victoire sera là. Jérémie, en venant d'Anatote, c'est une cité, j'allais dire un peu bannie. Ça remonte à David. Au temps de David, il avait deux conseillers extraordinaires, qui s'appelaient Sadoc et Ébiatar. C'étaient deux prêtres qui avaient un sens politique très prononcé, ont été d'un grand service pour David pour le sortir des situations un peu problématiques lorsque ses fils voulaient prendre le pouvoir. Simplement, à la fin de la vie de David, Ébiatar voyait l'avenir, il fallait préparer l'avenir. Il avait fait le choix d'Adonias, un des fils de David. Le problème, c'est que le clan de Sadoc, de Jérusalem, Ébiatar était d'Anatote. On fait le choix, de Salomon. Bon, c'était un avis de la Providence. Ce qui fait que Salomon, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, a banni Ébiatar, il ne l'a pas supprimé, bien qu'il ait fait le ménage autour de lui. Il l'a banni dans sa ville d'origine à Anatote. Et quand il a construit le temple, il s'est entouré de prêtres de Jérusalem pour s'assurer quand même, voilà, de la politique qu'il voulait mener aussi. Et c'est resté justement cette distinction de classe entre les prêtres de Jérusalem et ceux de la périphérie. Or, Jérémie, on ne manquera pas de lui faire remarquer, il est près du temple, qu'il est de la banlieue d'Anatote. On lui collera une étiquette sur le dos, exactement comme on l'a fait pour Jésus. Vous savez, Nathanaël, lorsqu'il entend Philippe dire « Le Messie, il est arrivé, il est là, il vient de Nazareth, que peut-il sortir de bon Nazareth ?» Oui. Enfin, toujours est-il que le Seigneur a choisi Jérémie, dont la vocation semble faire de lui un insupportable trouble-fête. Il devra tout contester dans la pensée bien arrêtée et le pouvoir de son peuple. Il sera compris comme un semeur d'inquiétude et il finira par soulever contre lui ceux qui préfèrent les drogues douces des politiques aux violents réactifs des exigences divines. Il est certain qu'on est plus tranquille avec un scribe de la loi ou un casuiste qu'avec un authentique porte-parole de Dieu. Les saints ne vous laissent jamais tranquille, mais je crois qu'il faudrait plutôt canoniser ceux qui vivent avec eux. Certes, Jérémie appartient à l'une de ces périodes les plus dramatiques de l'histoire de son peuple qui se conclut par la déportation. Pour ne rien faciliter, il est appelé à intervenir dans les convulsions politiques qui marquent cette période. Comme dans toute période de ce genre, le message est inaudible et Jérémie devient par le fait même un signe de contradiction. En écoutant Jérémie face à ces gens, qu'il excite, je dirais, comme un empêcheur de tourner en rond, Jérémie devra ceindre ses reins. Nous dirions se retourner les manches pour se défendre et se parer de l'agression. Dans sa tension intérieure de répondre à l'appel du Seigneur qui l'accrédite et accomplir son devoir, il lui faudra tenir comme un mur d'airain à la parole de Dieu. Faire face. Mais sa force viendra de la certitude qu'il est envoyé de Dieu, même au cœur de la nuit. Que Dieu est avec lui et qu'il n'a pas choisi sa vocation de prophète. C'est Dieu et Dieu seul qui l'a appelé et formé pour une telle mission. N'est pas prophète qui veut. Si la politique cherche son confort et sa petite réussite, le prophète veut la volonté du salut de Dieu. Si la parole et l'action de Jérémie sont frontales, saint Paul, lui, nous ouvre une perspective dans la relation avec la communauté des croyants qui portera un témoignage crédible au monde païen. Aux Corinthiens convertis, ces grands enfants, en appétit de charisme éblouissant, comme le parler en langue, la glossolalie, et la prophétie, saint Paul rappelle qu'il est un don infiniment supérieur et dont on ne finira jamais d'apprécier la valeur et les bienfaits, la charité fraternelle, qui est la dignité et le sceau du disciple du Christ. Et ce rappel nous vaut une ode finement ciselée. Elle est comme le sommet de cette lettre où les divers problèmes pastoraux n'ont d'autre solution que la koinonia, l'entrée en communion, communion de vie avec le Christ et nos frères. Alors que les charismes, dont gratuits de Dieu, ne sont que d'un temps et qu'ils ne sont porteurs, j'allais dire, d'aucune grâce sanctifiante, la charité, quant à elle, est éternelle, elle est porteuse de Dieu. ses bienfaits sont infinis. Sans la charité, les dons les plus brillants ne sont rien. Ils peuvent même être dangereux. Ne soyons pas, insiste saint Paul, de ces gamins capricieux qui ne s'attachent qu'à ce qui brille ou qui se contentent de ces images déformées que renvoient les miroirs déformants d'esprits suffisants et égocentrés. Dans le passage de l'Évangile, l'incident de Nazareth, de la louange des habitants de Nazareth, en fait, Jésus les connaissait tous, par leur visage, leur prénom, leur nom. Il a passé 30 ans avec eux. Ils connaissaient tous, ils se connaissaient trop bien. Eh bien, la louange au rejet tout un coup brutal de Jésus, et ça marquait quand même l'esprit des disciples. Ce fait montre que nous touchons les limites d'une pensée toute faite et fermée sur elle-même. La capacité d'émerveillement, où est-elle? C'est ça. Saint Luc porte un regard différent sur l'événement de Nazareth par rapport à saint Matthieu et à saint Marc, qui affiche l'incrédulité des gens de Nazareth et le scandale provoqué par les plantations revendiquées par l'un des leurs. Ils vont l'appeler, saint Matthieu, le fils du charpentier. Oui, c'est comme ça qu'ils le nomment. Ce n'est pas comme ça que saint Luc le nomme. Pour ces gens, toute la vie et leur univers se concentrent dans leur village et pas ailleurs. Saint Luc ouvre des perspectives en parlant du fils de Joseph, ce qui est quand même moins dépréciatif. Ça montre qu'il y a une relation quand même plus personnelle. De plus, il met en évidence que tous lui rendaient témoignage et étaient dans l'admiration devant les paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche. Ben jusque-là, tout va pour le mieux. Mais subitement, tout bascule dans l'incompréhension et le rejet. Et pourquoi donc? Jésus mentionne deux faits historiques attribués à deux prophètes, Élie et Élisée, vénérés et reconnus comme venant de Dieu. Les faits concernent deux miracles en terre païenne. L'une, la multiplication de l'huile et de la farine chez une pauvre veuve par l'intervention d'Élie, et l'autre, la guérison de la lèpre d'un païen par l'entremise d'Élisée. Autrement dit, la mission du fils de Joseph, comme celle des deux hommes de Dieu, ne s'enferme pas dans un territoire, si sacré soit-il, mais qu'elle s'ouvre à tous et ne s'enferme dans aucune frontière. Les habitants de Nazareth devront comprendre que le salut n'est pas un dû réservé et limité à quelques privilégiés, mais un don offert à tous. Saint Luc, disciple de l'apôtre des païens, et donc soucieux d'universalisme, présente l'incident de Nazareth comme le prélude, mais aussi la prophétie, du sort de l'Évangile. Jésus, en effet, sera rejeté par les Juifs et favorablement accueilli par les païens. Et les pères de l'Église soulignent que le refus des compatriotes de Jésus porte en germe le refus de tout le peuple juif. Dans l'Église primitive, c'est précisément ce refus massif qui donnera le signal du passage de l'Évangile aux nations, comme le rappelle saint Luc dans les Actes des Apôtres. Il y a même une correspondance entre l'expulsion d'Étienne et celle de Jésus. Les deux sont poussés hors de la ville. La persécution qui suit le martyre d'Étienne lance l'Évangile sur toutes les routes du monde. Ainsi, l'histoire de Jésus se poursuit dans l'histoire de l'Église. Si l'Église est refusée, comme Jésus, elle ne refuse personne, ni juif, ni gentil, ni libre penseur, ni persécuteur. Car l'Église sait qu'à titre de nouvel Israël, elle comprend que Dieu n'a pas rejeté ni son peuple, ni les peuples de notre monde, mais il attend avec patience et miséricorde que tous reconnaissent son envoyé Jésus, le fils de Joseph. Au fond, la purification du cœur et de l'esprit des pensées qui présuppose l'humilité, la grande charité, afin de les tenir toujours disponibles aux imprévus de Dieu, demeure l'une des exigences principales du progrès de la foi. Charles Péguy a raison. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée, c'est d'avoir une pensée toute faite. Bien, selon l'invitation de saint Paul, vivons sous le regard de Dieu, dans son amour, ainsi nous aurons pour tout homme une vraie charité, celle du Seigneur Jésus qui s'offre et se livre pour notre salut. Amen.